« Retournons cette crêpe, » dit-il d'un ton joyeux. Et je suis effectivement retourné avec autant de dextérité que si j'en étais une. Mon bras droit décrit un grand arc et vient se cogner contre la table. Son rebord en saillie m'entre dans le biceps. C'est très douloureux, presque insupportable, mais je m'en fiche. Je prie pour que le tranchant de cette saillie m'entame le bras. Je prie pour qu'elle me fasse saigner, chose qu'aucun honnête cadavre ne sait faire. « Oh, le petit bras !» dit le docteur Harlan. Elle le relève et le laisse retomber le long de mon corps. C'est à présent mon nez qui me préoccupe le plus. Il est écrasé contre la table et, pour la première fois, mes poumons m'envoient un message de détresse, une sensation cotonneuse de manque. Ma bouche est fermée, mon nez partiellement fermé, mais à quel point je ne saurais le dire. Je ne me sens même pas respirer, pas vraiment. Et si je m'étouffais dans cette position ? Puis se produit quelque chose qui me fait complètement oublier mon nez. On m'enfonce sans ménagement un objet énorme. Imaginez une batte de baseball en verre, dans le rectum. Une fois de plus, j'essaye de crier et n'arrive à produire que mon minuscule et lamentable fredonnement. « Thermomètre placé. Chronométrage lancé, » dit Peter. « Bien, » répond-elle en s'écartant, lui donnant de la place, le laissant se faire la main sur ce beau bébé. S'entraîner sur moi. La musique est un peu plus basse. Le sujet est de race blanche, âgé de 44 ans, continue Peter, s'adressant au micro, s'adressant à la postérité. Son nom est Howard Randolph Cottrell. Il habite au 1566 Laurel Crest Lane, ici, à Derry. La voix du docteur Harlan venant d'un peu plus loin. Mary Mead, exactement. Un bref silence, puis Peter reprend une minuscule pointe d'agacement dans la voix. Le docteur Harlan fait savoir que le sujet habite en réalité Mary Mead, qui s'est séparée administrativement de Derry en... Ça suffit pour la leçon de géographie, Pete. Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'ils m'ont collé dans l'arrière-train ? Un thermomètre à bétail ? Un poil plus long et ils me chatouilleraient la glotte, sans compter... qu'ils n'y ont pas été vraiment très forts sur le lubrifiant. Et d'ailleurs, pourquoi l'aurait-il fait ? Je suis mort, après tout. Mort ! Désolé, docteur, dit Peter, tâtonnant mentalement pour trouver la bonne place et y parvenant. Ces informations proviennent du formulaire de l'ambulance, prises sur le permis de conduire délivré dans le Maine, trouvé sur le sujet. Le médecin qui a fait le constat de décès est... Frank Jennings. Constat établi sur les lieux. J'espère maintenant que c'est mon nez qui va saigner. S'il te plaît, saigne, et pas juste un peu, pisse le sang. Il n'en fait rien. Cause du décès pourrait être une crise cardiaque. Une main légère effleure le bas de mon dos jusqu'à l'arrêt des fesses. Je prie pour qu'elle retire le thermomètre. Mais non. La colonne vertébrale paraît intacte. Aucune manifestation d'attraction. Manifestation d'attraction ? Manifestation d'attraction ? Et quoi encore ? Ils me prennent pour un papillon de nuit ? Il me soulève la tête. Je sens le bout de ses doigts contre mes pommettes et je pousse un bourdonnement désespéré, sachant cependant qu'il ne risque pas de m'entendre, avec Keith Richards qui fait hurler sa guitare, mais espérant qu'il sentira peut-être une vibration venir de mes voies nasales. Il ne sent rien. Il se contente de me retourner la tête d'un côté et de l'autre. Aucune blessure apparente au cou, pas de rigidité. Et cette fois, je me prends à souhaiter qu'il laisse retomber ma tête, qu'il la laisse lourdement choir sur la table. Voilà qui me fera saigner du nez, sauf si je suis vraiment mort. Mais il la repose délicatement, avec respect, ce qui écrase le bout de mon nez et fait de l'étouffement une possibilité crédible. Pas de blessure visible dans le dos ou sur les fesses, continue-t-il, bien qu'on voit une ancienne cicatrice, en haut de la cuisse droite, qui pourrait être celle d'une blessure faite par un éclat d'obus. Assez moche. Ouais, elle était moche. Et ouais, c'était un éclat d'obus. La fin de la guerre pour moi. Un obus de mortier qui avait dégringolé dans un entrepôt, deux hommes tués, un troisième, moi, plus chanceux. C'est encore plus moche sur le devant, et à la hauteur d'un endroit encore plus sensible, même si tout le matériel fonctionne, ou du moins fonctionnait jusqu'à aujourd'hui. un demi-centimètre plus à gauche, et on aurait pu me greffer une pompe manuelle branchée sur une cartouche de CO2 pour les moments de grande intimité. Il retire finalement le thermomètre. Bon Dieu, quel soulagement! Et je vois sur le mur son ombre qui le brandit. 36,6, dit-il. Bon sang, c'est impressionnant. Il pourrait presque être en vie, ce type, Katie. Docteur Harlan. N'oubliez pas où on l'a trouvé, répond-elle depuis l'autre côté de la salle. L'enregistrement des Stones est entre deux plages, et quelques instants, je peux entendre sans mal la façon dont elle lui fait un cours. Terrain de golf, après-midi d'été ensoleillé, vous m'auriez dit 37,2 que je n'aurais pas été surprise. Bien, bien, dit-il, paraissant mortifié. Puis, est-ce que tout ça ne va pas faire bizarre sur l'enregistrement? Traduction, est-ce que je ne vais pas avoir l'air d'un crétin? Ça aura l'air de travaux dirigés, ce qui est précisément la situation, répond-elle. Bon, très bien, génial. Ses doigts en caoutchouté m'écartent les fesses, les relâchent et descendent le long de mes cuisses. Je me tendrais si j'en étais capable. J'essaie de lui envoyer un message. Jambe gauche, mon petit Peter, mollet gauche, tu vois pas? Il doit le voir. Il ne peut pas ne pas le voir, puisque je le sens. Je sens des élancements comme après une piqûre d'abeille, ou comme quand une infirmière maladroite enfonce une aiguille de travers et que le liquide se diffuse dans le muscle au lieu d'aller dans la veine. Le sujet est un bon exemple de l'erreur qu'on commet en jouant au golf en Bermuda, dit-il. Sur quoi je me prends à souhaiter qu'il soit aveugle de naissance. Et il est peut-être aveugle de naissance, à voir comment il se comporte. Je vois toutes sortes de piqûres et morsures d'insectes, d'endroits irrités. D'après Mike, on l'a retrouvé dans le rough, lui lance le docteur Harlan. Elle fait un sacré boucan. À croire qu'elle se tape toute la vaisselle d'un restaurant et non pas qu'elle range des dossiers. Elle ajoute, il aurait eu une crise cardiaque pendant qu'il cherchait sa balle. C'est l'hypothèse. Continuez, Peter. Vous vous en sortez très bien. Voilà une affirmation que je trouve des plus contestables. Entendu, dit-il. Ses doigts me tâtent, me donnent de petits coups, en douceur. Peut-être même trop en douceur. Piqûre de moustique apparemment infectée au mollet gauche, reprend-il. Et, en dépit de son toucher toujours aussi léger, je ressens un élancement foudroyant qui m'aurait fait hurler si j'avais été capable d'émettre autre chose que mon petit fredonnement. Je prends soudain conscience que ma vie tient peut-être à la longueur de l'enregistrement des Rolling Stones qu'ils ont mis, en espérant que c'est une cassette et non pas un CD qui jouerait jusqu'au bout. Si ça s'arrête avant le premier coup de scalpel, si j'arrive à marmonner assez fort pour qu'ils entendent avant d'avoir retourné la cassette, elle reprend la parole. Je crois que j'examinerai ces piqûres de moustiques après l'autopsie. Cela dit, si le premier diagnostic est exact, ce ne sera pas nécessaire. Mais si vous préférez, je peux aller voir ça tout de suite. Elle vous tracasse? Non, non, ce sont manifestement des piqûres de moustiques, sans tête ce Barjot. On en voit d'un sacré calibre dans le coin. Il en a 7, 8, bon sang, presque une douzaine rien que sur la jambe gauche. Il a oublié son répulsif, commente-t-elle. Son répulsif? Sa digitaline, vous voulez dire? Et tous les deux éclatent gentiment de rire. Humour de salle d'autopsie. Cette fois-ci, il me retourne tout seul, probablement tout farot de se servir de ses biceps confectionnés en salle de muscu, cachant les morsures de serpent et les piqûres de moustiques qui les entourent. C'est du camouflage. Je regarde de nouveau les néons alignés dans leurs réflecteurs. Peter recule d'un pas et sort de mon champ visuel. Il y a un bourdonnement. La table commence à s'incliner. Je sais pourquoi. Quand ils vont m'inciser, les fluides s'écouleront vers un collecteur. Une profusion d'échantillons pour le labo d'État à Augusta, au cas où l'autopsie provoquerait des doutes. Concentrant toutes mes forces, j'essaie de fermer les yeux pendant qu'il me regarde, mais n'arrive même pas à produire un tressaillement. Tout ce que je demandais, moi, c'était mon petit 18 trous pépère du samedi après-midi et me voilà transformé en Blanche-Neige avec du poil aux pattes. Et impossible de m'arrêter de penser à ce que je vais ressentir lorsque ces cisailles à volaille vont s'enfoncer dans mon corps. Peter tient une planchette à pince. Il la consulte, la pose de côté et parle dans le micro. Il s'exprime d'une manière beaucoup moins contrainte. Il vient de faire la pire erreur de diagnostic de sa jeune carrière, mais il l'ignore et commence à se prendre au jeu. « Début de l'autopsie, dit-il. 17h49, samedi 20 août 1994. » Il m'écarte les lèvres, regarde mes dents comme un type qui veut acheter un cheval, puis il abaisse ma mâchoire. « Bonne couleur, dit-il. Pas de pétéchie aux joues. » Le morceau vient de finir, et j'entends un cliquetis, celui de la pédale sur laquelle il a appuyé pour interrompre l'enregistrement. Bon sang! Ce type pourrait vraiment être en vie! Je fredonne frénétiquement, mais à ce moment-là, le docteur Harlan laisse tomber un gros objet, genre bassin. Il ne demanderait pas mieux, dit-elle en riant. Il se joint à elle et cette fois, je leur souhaite de crever à petit feu d'un cancer, genre inopérable. Il parcourt rapidement mon corps, tripote ma poitrine, pas d'ecchymose, pas d'enflure, ni aucun signe extérieur d'arrêt cardiaque, commente-t-il, tu parles d'une surprise. Puis il me palpe le ventre. Je rote. Il me regarde, les yeux écarquillés, bouche bée, et j'essaie, une fois de plus, désespéré, d'émettre mon petit fredonnement, sachant qu'il ne va pas l'entendre, parce que Start Me Up vient de commencer, mais me disant que peut-être, avec ce rot, il sera prêt à voir ce qu'il a juste sous le nez. « Excusez-vous, Howard, dit alors le docteur Harlan, cette salope, quelque part dans mon dos. » Et elle pouffe. « Faites gaffe, Pete, ces rots post-mortem sont les pires. » Il fait semblant de chasser l'air de devant son visage, exagérant son geste, puis retourne à son travail. Il touche à peine mon aine, même s'il remarque que la cicatrice qu'il a vue à l'arrière de ma cuisse se prolonge jusque-là. T'as raté le plus beau, peut-être parce que c'est situé juste un peu plus haut que là où tu regardes, me dis-je. C'est pas bien grave, mon pote de Baywatch, mais il y a autre chose que t'as raté, c'est que je suis toujours en vie, et ça, c'est fichtrement grave. Il continue à psalmodier dans son micro, l'air de plus en plus à l'aise, aussi à l'aise en vérité que Jack Klugman, le type qui jouait le médecin légiste dans la série Quincy. Et je sais que sa partenaire, celle qui se tient derrière moi, et qui est la Pollyanna du monde médical, ne se doute pas qu'elle aura intérêt à effacer cette partie de l'examen. Mis à part qu'il n'a pas relevé le fait que son premier sujet d'autopsie était encore en vie, il se débrouille comme un chef, le gosse. Finalement, il dit « Je crois que je suis prêt à commencer, docteur. » Il est un peu hésitant, tout de même. Elle s'approche, me jette un bref coup d'œil, puis lui serre l'épaule. « Très bien. Que le spectacle commence !» lance-t-elle. J'essaie de tirer la langue. Rien que ce petit geste de provocation enfantin suffirait, et il me semble sentir un léger chatouillis dans mes lèvres, le genre de sensation qu'on éprouve un bon moment après avoir été matraqué à la novocaïne. Et ma lèvre n'a-t-elle pas tressailli? Non. J'ai rêvé juste « oui, oui !» Mais on en restera là. Lorsque j'essaie à nouveau, rien ne se produit. Pendant que Peter prend les ciseaux, les Rolling Stones entament « Hang Fire ». Je leur hurle « Mettez-moi donc un miroir sous le nez, vous allez voir de la buée. Pourriez pas faire au moins ça ?» Snick, snick, snickety snick. Peter brandit les ciseaux. Et dans le mouvement, la lumière court le long de la lame. Pour la première fois, j'ai la certitude absolue, que cette mascarade insensée va aller jusqu'à son terme. Le réalisateur ne va pas dire « terminé pour aujourd'hui ». L'arbitre ne va pas interrompre le match de boxe pendant le 10e round. Nous n'allons pas attendre que passe un message de notre sponsor. Le petit Peter va m'enfoncer ses ciseaux dans le ventre tandis que je resterai là impuissant. Le petit Peter va m'ouvrir comme un colis arrivé par la poste. Il a un regard hésitant en direction du docteur Harlan. Non ! Le hurlement rebondit en écho contre les parois sombres de mon crâne sans que rien ne sorte de ma bouche. Non ! Je vous en supplie, non !» Elle acquiesce. « Allez-y. Vous ne voulez pas couper la musique ?»«
Oui, oui, coupez la musique, coupez-la. »«
Ça vous gêne ?»«
Oui, ça le gêne même tellement qu'il croit que son patient est mort. »«
Eh bien, allez-y. » Sur quoi, la toubib disparaît de mon champ de vision. L'instant suivant, Mick et Keith quittent aussi la scène. Finalement. Je tente de produire mon fredonnement nasal et découvre l'horreur, je n'en suis même plus capable. J'ai trop peur. La frousse m'a paralysé les cordes vocales. Je ne peux que regarder en l'air et la voir qui le rejoint. Ils me regardent, tous les deux, comme deux croque-morts regarderaient dans une fosse ouverte.
« Merci, » dit-il.
Puis il prend une profonde inspiration, appuie sur sa pédale et reprend.
Commencement de l'intervention, incision du péricarde.
Il baisse lentement la main armée des ciseaux. Je les vois. Je les vois. Puis ils disparaissent de mon champ de vision. Un bon moment plus tard, je sens le froid de l'acier contre la peau, en haut de mon ventre nu. Il regarde la toubib, pris de doute.
Vous êtes sûr que vous ne préférez pas...
Est-ce que vous voulez devenir anatomopathologiste ou pas, Pete ? Lui demande-t-elle d'un ton sec.
Vous savez bien que oui, mais...
Alors, incisez. Il hoche la tête, lèvres serrées. Je fermerais les yeux si je pouvais, mais j'en suis évidemment incapable. Je ne peux que m'armer contre la douleur qui n'est plus qu'à une ou deux secondes maintenant, m'armer contre son arme.
Incision, dit-il, se penchant sur moi.
Non, attendez une seconde, s'écrie-t-elle. La pression qui me creusait une fossette juste en dessous du plexus solaire diminue un peu. Il relève la tête et la regarde surpris, troublé, peut-être soulagé que le moment crucial soit retardé. Je sens la main gantée de caoutchouc d'Arlen s'enrouler autour de mon pénis, comme si elle voulait me masturber, faire bander un mort. Puis elle dit
« Vous avez oublié quelque chose, Pete ?»
Il se penche et examine ce qu'elle vient de découvrir. La cicatrice que j'ai à l'aine, tout en haut de ma cuisse droite, l'affaissement lisse d'une peau sans pores dans ma chair. Sa main me tient toujours la queue. La tient pour dégager la vue. C'est tout ce qu'elle fait. Elle pourrait tout aussi bien être en train de soulever un coussin du canapé pour montrer à quelqu'un le trésor qu'elle a découvert en dessous. Pièces de monnaie, portefeuille cru, perdu, ou la souris entamée par le chat qu'on avait vainement cherché partout. Mais voilà, quelque chose se produit. Par tous les diables et par tous les saints, quelque chose se produit.
« Et regardez !» reprend-elle, tandis que son doigt glisse le long de mon testicule droit, sensation de chatouiller. « Regardez cette cicatrice, mince comme un cheveu. Ses noix ont dû enfler jusqu'à faire quasiment la taille d'un pamplemousse, je parie. »
Peter, il a eu de la chance de ne pas en avoir perdu une ou les deux.
« Oui, vous pourriez parier votre... »
Ce que je veux dire. Et elle repart de son petit rire un tantinet suggestif. Sa main gantée se desserre, se déplace, puis repousse fermement mon pénis pour mieux dégager la zone. Elle fait par accident ce que certains se feraient volontiers faire intentionnellement pour 25 ou 30 billets. En d'autres circonstances, cela va de soi.
C'est une blessure de guerre, je crois. Passez-moi la loupe, Pete.
Mais est-ce qu'on ne devrait pas...
Dans un instant... Peter,
il ne va pas s'en aller. Elle est totalement à ce qu'elle a découvert. Sa main me tient toujours, appuie toujours fermement, et ce qui s'est produit me donne l'impression de continuer à se produire, mais je me trompe peut-être. Je me trompe, forcément, sinon il le verrait. Elle le sentirait. Elle se penche, et je ne vois plus d'elle que son dos revêtu de vert, les rubans de son bonnet lui faisant deux bizarres queues de cochon. Et maintenant, oh bon sang, je sens son haleine sur ma peau, là, en bas.
Observez les marques rayonnantes. C'est une blessure par déflagration vieille d'au moins 10 ans. Il faudrait vérifier ses antécédents militaires.
La porte s'ouvre brusquement. Peter pousse un cri de surprise. Pas le docteur Arlen, mais sa main
se comprime involontairement et elle me serre de nouveau. Je suis tombé dans une variation diabolique du vieux fantasme, l'infirmière lascive. « Ne l'ouvrez pas !» crie quelqu'un d'une voix tellement étranglée et chevrotante à cause de la peur que j'ai du mal à reconnaître celle de Rusty. « Ne l'ouvrez pas! Il y avait un serpent dans son sac de golf et il vient de mordre Mike !»
Il se tourne vers lui, les yeux écarquillés, bouche bée. Harlan me tient toujours, du moins pour le moment, puis le petit Peter se rend compte qu'une de ses mains s'agrippe au tablier de travail du docteur, côté sein gauche. Et c'est lui qui a l'air d'avoir coulé une bielle, à présent.
« Que veux-tu ? »
bégaye Peter.
« Il l'a assommé pour le compte, » poursuit Rusty, qui en bredouille d'émotion. « Il va s'en sortir, enfin, je crois, mais c'est à peine s'il peut parler. Un petit serpent marron, jamais rien vu de pareil de ma vie. Il est passé sous le quai de chargement, il y est encore en ce moment, mais ce n'est pas le problème. Je crois qu'il a déjà dû mordre le type qu'on vous a amené. » Je crois que, sainte merde, mais qu'est-ce que vous fabriquez? C'est la branlette réveil macabre ou quoi?
Elle regarde autour d'elle, éberluée, ne comprenant pas tout de suite ce qu'il a voulu dire, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que ce qu'elle tient à la main est devenu un pénis en état de quasi-érection. Elle pousse un cri, mais pense tout de même à escamoter les ciseaux de la main molle de Peter. Et pendant ce temps, j'évoque une fois de plus ce vieux court-métrage télé d'Alfred Hitchcock. Pauvre vieux Joseph Cotton, me dis-je. Il n'a eu qu'à verser une larme. Épilogue. Cela fait un an que je suis passé par la salle d'autopsie numéro 4 et j'ai entièrement recouvré la santé, même si le syndrome de paralysie s'est avéré tenace et angoissant. Il m'a fallu un bon mois pour retrouver les sensations les plus fines, celles de mes doigts et de mes orteils. Je ne peux toujours pas jouer du piano, mais de toute façon, c'était le cas avant. Je blague, évidemment, et sans vergogne. Je crois que, dans les 3 premiers mois qui ont suivi ma mésaventure, cette capacité à plaisanter de n'importe quoi a fait la différence entre récupération psychologique et dépression nerveuse. À moins d'avoir aussi senti la pointe d'une paire de ciseaux à volaille venir se poser sur votre estomac, vous ne pourrez comprendre ce que je veux dire. 2 semaines environ après avoir failli y passer, une femme habitant sur Dupont Street a appelé la police de Derry. Elle se plaignait d'une odeur horrible en provenance de la maison voisine de la sienne. La maison appartenait à un employé de banque célibataire du nom de Walter Kerr. La police trouva la maison vide, vide de vie humaine, s'entend. Dans le sous-sol, elle découvrit plus de 60 serpents appartenant à des espèces différentes. Environ la moitié était mort, de faim ou de déshydratation, mais beaucoup étaient encore on ne peut plus vivants et on ne peut plus dangereux. Plusieurs appartenaient à des espèces rares, et l'un d'eux à une espèce que l'on croyait éteinte depuis le milieu du siècle, d'après les herpétologistes consultés. Kerr ne se présenta pas à son travail à la Derry Community Bank le 22 août, 2 jours après l'incident, et lendemain de celui où la presse en parla. Le paralysé échappe à l'autopsie. Il y avait un serpent dans chacune des cages de la ménagerie dans le sous-sol de Kerr, plus une cage vide. Cette dernière ne comportait aucune identification, et le serpent qui s'était échappé de mon sac de golf, les ambulanciers l'avaient pris avec mon cadavre et s'étaient amusés à taper dans des balles dans le parking des ambulances, ne fut jamais retrouvé. La toxine qui avait envahi mon système sanguin, la même que celle qu'on trouva mais en quantité beaucoup plus faible dans celui de Mike Hopper, fut isolée mais jamais identifiée. J'ai examiné de très nombreuses photos de serpents depuis un an et en ai au moins trouvé un, capable de provoquer des cas de paralysie complète chez l'homme. Il s'agit du boomslang péruvien, un redoutable vipéridé en principe disparu depuis les années 20. Dupont Street se trouve à moins de 800 mètres du golf municipal de Derry, et le secteur qui les sépare est pour l'essentiel constitué de terrains vagues, envahis de broussailles. Un dernier mot. Nous sommes sortis ensemble.
Katie Harlan et moi, pendant 4 mois, entre novembre 1994 et février 1995. Nous avons rompu par consentement mutuel et pour incompatibilité sexuelle. J'étais impuissant, sauf si elle portait des gants en caoutchouc. À un moment ou un autre, tout écrivain spécialisé dans les histoires d'épouvante doit aborder ce sujet. L'enterrement prématuré, ne serait-ce que parce que c'est une angoisse fort commune. Quand j'étais gosse, les émissions de télé les plus effrayantes étaient « Alfred Hitchcock présente » et « De tous les AHP le plus effrayant », mes copains et moi étions totalement d'accord là-dessus, était celui dans lequel Joseph Cotten joue le rôle d'un homme blessé dans un accident de voiture. Si gravement blessé même, que les médecins le déclarent mort. Ils ne détectent pas le moindre battement de cœur. Ils sont sur le point de procéder à l'autopsie, de l'inciser, alors qu'il est encore en vie, conscient, et qu'il hurle dans sa tête, lorsqu'il parvient à faire couler une seule et unique larme pour leur faire savoir qu'ils vont commettre une erreur terrible. Histoire touchante. Mais les histoires touchantes ne sont pas tellement ma tasse de thé. Quand je me mis à penser à ce sujet, me vint à l'esprit une méthode pour faire savoir qu'on était encore en vie beaucoup plus, disons, moderne. Il en est résulté cette nouvelle. Un dernier point, à propos du serpent. Je doute beaucoup, beaucoup qu'existe un vipéridé du nom de Boomslang péruvien. Mais, dans l'une des aventures de sa Miss Marple, Agatha Christie fait état d'un Boomslang africain. Ce nom m'a tellement plu, Boomslang, pas africain, que je ne pouvais faire autrement que de le mettre dans cette histoire.